je marche dans tes rues, qui me marche sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes...
Bonjour à tous, ici Francine Broca, ravie de vous retrouver pour une autre édition d'Un océan à l'autre. Je serai accompagnée aujourd'hui encore une fois de Marie-Pierre Méduga. J'espère que vous allez bien, que ce déconfinement chez vous se passe très bien et que vous êtes surtout très prudent. Donc aujourd'hui, on va parler du déconfinement et de ce retour en classe chez les enfants. Dans un premier temps, on sait qu'il était important pour eux de retourner en classe pour parfaire leur année scolaire. Et puis, dans un deuxième temps, il fut question de l'importance pour ces enfants de retourner en classe. Un, parce que ces enfants confinés subissaient de la maltraitance. Deux, parce que certains ne mangeaient pas leur faim. Je ne sais si c'est le cas chez vous, mais ici, pour les enfants qui sont démunis en milieu défavorisé, les écoles leur donnent leur petit déjeuner. Et cela a suscité bien sûr beaucoup de questions chez moi. En fait, est-ce que nous en sommes rendus là comme société? Devons-nous envoyer des enfants à l'école afin qu'ils puissent manger et être en mesure de dénoncer la maltraitance? Alors ce sera notre sujet du jour, l'inégalité sociale chez les enfants. Et bien sûr, nous parlerons de nos coups de cœur, nos coups de blues, colère ou nos coups de gueule. Et ben, je vais rejoindre immédiatement Marie-Pierre Méduga. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Francine, comment allez-vous?
Ça va. Et c'est un peu nuageux ici. Je vois que chez vous, c'est toujours ensoleillé. Mais on s'y fait.
Très ensoleillé aujourd'hui. Un temps doux.
Oui.
Et très ensoleillé.
Ah ben c'est bien. C'est parfait. Ça fait... Mais j'ai vu, quand on regarde les nouvelles, tous vos arbres sont en feuilles, il y a même des fleurs, on est bien loin de ça. À peine quelques bourgeons dans les arbres ici, le printemps se tarde à venir. Je parlais de déconfinement, nous ne le sommes pas encore, nous le serons probablement dans 10 jours, si la propagation se calme un peu. On sait que nous avons beaucoup de problèmes, pas dans les régions, mais surtout dans la grande ville de Montréal et les alentours. Alors on avait des militaires qui sont venus aider dans les CHSLD, comparables à vous qui sont des EHPAD, mais là on dit que certains militaires ont aussi attrapé le virus ce matin. Alors voilà, les mauvaises nouvelles continuent encore. Mais par contre, hier, le gouvernement, même si nos enfants sont retournés à l'école en région, mais dans, ici à Montréal et les alentours, l'école ne reprendra qu'au 1er septembre. Et je pense que c'est une bonne... C'est très bien comme ça, c'est une bonne... Ils ont bien réussi à avoir fait ça, le tour de la question, là. C'est une bonne solution de repartir le tout, juste en septembre. Alors, chez vous, je ne sais pas, est-ce qu'on commence par nos coups de cœur, nos coups, comme à l'habitude, Marie-Pierre?
Oui, alors, est-ce que je n'ai pas beaucoup de coups de cœur.
Ok.
J'ai plutôt des coups de blues.
Ok,
mais
allez-y.
Quand même.
Allez-y.
Alors là, vraiment, je n'ai pas un coup de cœur, j'ai un coup de blues, c'est rare, mais pour moi, cette reprise de ce déconfinement, ouais, ça a été vraiment un véritable coup de blues. Le mardi matin, donc nous avons fait l'émission ensemble lundi,
ouais,
et le mardi matin, on n'entendait déjà plus les oiseaux. Et on entendait un bruit de fond, une espèce de brouhaha qui était déjà les gares, les trains qui étaient repartis. Et vraiment, comme c'était aussi la journée de la Terre, j'ai trouvé que c'était comme une espèce de pied de nez un peu triste, parce que c'est comme si tout le monde, en tout cas d'un coup, s'était dit que le monde d'après, plus propre, plus respectueux, plus égalitaire, attendrait, et que pour le moment, il fallait se dépêcher de consommer très vite, la porn food. Donc, aller dans les McDo. Alors, je ne critique pas, je sais que manqué du coup de McDo, mais ce que je veux dire, c'est que... Et tout d'un coup, c'était... On revient, comme on dit, l'expression, c'est comme en 40, hein, comme, comme à la gare. On revient comme en 40, et voilà. Et on... Voilà. Et ça m'a donné un énorme coup de blues, parce qu'entre-temps, effectivement, les choses ne se sont pas arrangées. Certaines choses s'étaient arrangées et vont reprendre de plus belle, c'est-à-dire que la Terre avait quand même eu un répit en termes de CO2. en termes de nuages toxiques, en termes
Oui, on avait dit que
de répit.
la nature avait repris son cours pendant au moins 60 jours, hein, qu'elle avait repris
C'est ça.
ce mois-là. Ouais.
Et du coup, le coup de blues, ça a été que beaucoup de parcs régionaux ont dit, ont fait, donc il y a beaucoup de parcs régionaux en France, ont dit, on déconfine, mais on veut vraiment vous signaler que les animaux ont pris, ont, pendant 60 jours, ils ont été seuls en tranquillité et que vous allez donc maintenant débarquer dans les champs, dans les montagnes, dans les près des rivières. S'il vous plaît, respectez la nature parce que les animaux, en 2 mois, ont pris leurs aises. Donc respectez d'autant plus la nature. Voilà pour mon petit coup de blues. Et puis, voilà, alors matinée d'un petit coup de cœur quand même parce que du coup, on va redécouvrir les jolis parcs de France.
Bah, avez-vous un coup de gueule ou un coup de colère ou pas?
Un coup de colère,
Ouais.
toujours, toujours, toujours pour les questions qui tiennent à la naturalisation des migrants et des sans-papiers. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pays pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les soigner. En Espagne, en Italie, on dit qu'il fallait naturaliser et donner donc une carte de résident aux sans-papiers. La France n'a toujours pas fait le pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas soigner ces personnes. Ça veut dire que ces personnes sont inconnues au bataillon, pas de papier, pas d'existence. Hein. Et ça, c'est mon coup de gueule.
Ben c'est pas, non, c'est vrai, ces gens-là, ils sont souvent laissés à part. Mais il y a tellement à faire dans notre société, que, comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas quelle sorte de société on veut, on en fait partie, alors il va falloir qu'on fasse peut-être tous et chacun un examen de conscience. Enfin, moi, je vais aller pour mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est, on parle des enfants, alors c'est un petit garçon, il s'appelle Noah. Il est ici, du Québec, et pendant le confinement, il a fait du pain avec sa maman. Et un soir à la table, son père a dit, bah, c'est tellement bon, vous êtes tellement bon, pourquoi vous ne faites pas un Facebook et vous ne lancez pas à vendre votre pain? Alors son père a dit ça en blague et sa mère et l'enfant se sont regardés et en 15 minutes, ils ont fait une page Facebook, une page Twitter et ils ont eu beaucoup de demandes de faire du pain. Alors ils en ont fait pour leurs voisins qu'ils allaient livrer à vélo. Tout ça. Et puis il y a une voisine qui s'est mise en contact avec une télé ici. Le petit garçon est passé à la télé. Et puis suite à ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Mais là, ils ne fournissaient pas. Ils sont juste la maman et le petit garçon qui fait le pain artisanal. Alors il y a une boulangerie qui s'est affilié à eux. Et le petit garçon, il est allé tout fier parce qu'il a dit qu'il y avait des boulangers qui étaient là depuis 15-20 ans, qui faisaient des recettes. Il leur a donc donné sa recette de pain. Et puis maintenant, on fabrique le pain à son nom, qui s'appelle le pain Noah. Et un montant est redistribué à des organismes. Je trouve ça chouette. Vous savez,
Ah oui, c'est une
c'était.
jolie histoire.
Oui, pour un petit garçon de 8 ans qui a pris ça. Alors là, mais il semblait pas très content de retourner à l'école parce qu'il aimait bien faire son pain. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que pendant le confinement comme ça, lui et sa maman allaient à vélo porter le pain comme ça à la porte des gens, leur porter. Il y a eu des belles initiatives comme ça. Et mon coup de blues, c'est pour, encore une fois, un petit garçon qui était à l'école et qu'on lui a demandé ben, comment tu t'arranges, comment t'aimes ça. Ben, il répondait pas trop. Il disait ben oui, je suis content, mais alors le journaliste lui dit mais t'es content, mais t'as pas l'air vraiment. Ah non, qui dit c'était mieux avant. Alors on lui demande ben, pourquoi c'était mieux avant. Parce qu'avant, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Là, on peut rien faire. Et il avait l'air tellement miné, mais c'est vrai. Quand on les regardait, ils ont des airs pour jouer, des stickers. Entre les stickers, ils peuvent pas bouger. Ils sont habitués de se faire des accolades. Pas jojo pour eux, toutes ces
Ah,
bannières-là à respecter.
c'est une souffrance, hein. C'est une souffrance. Il y a des instituteurs, enfin, on dit maintenant professeurs,
Ouais,
professeurs,
professeurs,
oui,
instituteurs,
professeurs
enfin,
des
les
écoles.
enseignants, ouais. Même pour eux.
Voilà.
Moi, je vous dirais
Ils ont
que.
dit que c'était vraiment une souffrance de ne pas pouvoir consoler un enfant. Si un enfant tombe, comment ils font?
Ben écoutez, hier, il y a eu ça, la fête, la page à la une ici d'un journal, chez une éducatrice, que la maman est allée porter son enfant hein, dans les garderies qu'on appelle ici, là. Et le petit s'est mis à pleurer, ben, parce que tous ces visages masqués, ces visières-là,
C'est ce qu'on disait, hein, la
dernière
fois, ça fait peur.
Et il a été apeuré. Alors, ben là, on dit pas prendre. Elle a enlevé son masque, elle a enlevé sa visière, elle a pris le petit, elle a donné un bisou sur le front, puis, ben, advienne, que sera, là. Franchement. Et c'est un tout petit bébé qui pleure comme ça. Et l'enfant, ben, c'est de pleurer. Mais c'est vrai qu'on dit on va changer, puis on se fait des accolades ou des bisous pour rien. Mais certaines choses chez les enfants, elles sont tellement spontanées, comme on avait dit. Bon, il y a certaines choses qu'on peut pas arrêter. Dans la, l'enseignante disait, ben écoutez, quand ils sont dans la cour de récréation, ils se courent l'un après l'autre, puis ils sont tellement contents de se revoir, ils ont été confinés pendant 60 jours, que tout de suite, ils veulent se toucher, jouer ensemble. Un geste tout à fait normal, je dirais. Enfin, on verra ce qui adviendra. Et mon coup de gueule est pour chez vous, Sanofi Pasteur, là. Ah oui, mon coup de gueule pour ce vaccin qu'ils vont... avoir, bon, ils ont dit maintenant, après le coup de bouclier de tout le monde, que c'est vrai que tout le monde en aura, mais de préférence, ça va aller aux États-Unis avant, parce qu'ils ont donné 30 millions, mais le vaccin doit être universel pour tout le monde, là. Enfin.
Une entreprise française, cela étant. Hein.
Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Oui. Ouais. Mais apparemment, je ne sais pas, j'écoutais hier, on disait que vous, oui, une chose française chez vous, mais que vous ne donniez pas beaucoup d'argent, donc c'était peut-être normal qu'ils favorisent plus. Un autre pays
non,
que le vôtre.
Non, mais vous vous rendez compte? Ouais. Non, mais quand même. Ouais. Non, mais là, non, mais vous voyez quand même, on va dire que je suis un chantre anticapitaliste, mais il y a quand même des aberrations, non?
Ah oui, ouais. Je vous dirais qu'on voit, ce confinement nous a permis de voir, et je le dis souvent, toutes les failles de notre système dans tous les pays. C'est comme si on ouvre les failles, on regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur, et je vous dirais que c'est pas très beau. C'est vrai qu'on le dit, c'est pas toujours facile de gérer toute cette crise, que c'est quelque chose de jamais vu, que tout le monde va à tâtons. Je dis toujours on brodait avant, alors là, imaginez comment la broderie y va de l'avant. Mais je ne sais pas, c'est toujours ma seule raison, ce que je dis, ma réponse, j'en sais rien. Je vois que chez vous, on a mis, le gouvernement a subi 63, on l'accuse, hein, de 63, de, je sais pas, oui, de voir ça, là on va voir ce que ça va donner. Il y avait un avocat qui en parlait hier, alors je sais pas. Là on parle que vous allez refaire, vous allez finir vos élections
municipales. Oui, tout à fait.
Oh my God. Enfin, je m'en mêle pas. J'ai assez de problèmes ici avec nos trucs, mais enfin. Alors, voilà, on va voir. Là, il y a la bataille entre Madame Hidalgo et Monsieur Véran pour les parcs. Enfin. On se tire.
Elle a raison. Ouais. Elle a raison de dire si évidemment on met quand même les gardiens dans les parcs.
Ouais.
Parce que interdire les parcs, c'est avoir des gens dans la rue. Et les parcs sont beaucoup plus vastes pour pouvoir effectivement contenir des personnes qui vont avoir 1 ou 2 mètres de différence,
de distanciation.
De
ouais.
Alors que dans la rue, ça ne va pas être possible.
Ah, vous savez, ici, on a grandi les rues. Hier, je suis sortie pour voir quelque chose, puis je ne comprenais pas. C'est que souvent, on met des barrières pour nettoyer le bord des trottoirs et puis le bord des rues d'un côté. Puis après ça, on enlève ça. Les voitures peuvent continuer à se stationner. Mais non, hier, c'est à peu près, je vous dirais, 4 mètres avec des petits poteaux verts. Et c'est pour élargir les rues, pour que les gens aient plus d'espace pour marcher sur les trottoirs. Alors, on a grandi le trottoir de 4 mètres, là. Et comme ça, les gens ne sont pas... Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur, Marie-Pierre. Quand on voit tout ça, tous ces plexiglas posés un peu partout. Là, on parle que bon, les coiffeurs ici vont réouvrir, ils espèrent, le 25 mai. Alors, avec tous ces plexiglas, le coiffeur doit porter un masque, une visière, la cliente un masque. Mon Dieu, on se penserait... Je sais pas, je pense que j'aime mieux rester confinée à l'intérieur que voir tout ça.
C'est pas faux.
Non, mais...
Moi, je m'étais posé plein de questions, vous vous rappelez, on en avait parlé, comment essayer des... Bon, maintenant, on comprend que ça va être un peu compliqué, comment faire un peu. Et ce que j'en retiens, c'est qu'il a fallu refaire face à l'économie, mais que du coup, on ne sait toujours pas gérer.
Non, mais
c'est toujours pas
j'ai fui quand même surprise de voir, parce que je vais aller m'acheter, bon là c'est le printemps, on peut mettre, au moins il y a ça, on peut mettre, acheter des plants et mettre nos jardins, fleurir nos jardins. Et je vous dirais même si vous n'avez pas de jardin, si vous avez juste un petit balcon, mettez quelques fleurs, c'est tellement, ça l'enjolive tellement et ça donne un peu, on a l'impression qu'il y a de la vie quelque part. Et encore une fois, hein, on doit attendre en ligne, c'est notre nouvelle vie ça maintenant, l'attente. Et on se met. Et je disais aux gens, ben, je ne sais pas, moi j'ai des difficultés avec ça à m'habituer. Eux semblaient, non, ben, c'est comme ça maintenant, puis ils s'y font. Ben, tant mieux, tant mieux. Moi j'essaie d'aller le moins souvent possible, comme j'ai dit, je vais commander en ligne, et puis j'ai quand même des producteurs locaux, là, des choses pareilles de notre quartier. Mais d'aller attendre 1h30, 2h comme ça, il faut vraiment que ce soit dans des situations, je vous dirais, exceptionnelles. J'espère que ça va changer, qu'il va y avoir un roulement plus rapide. Parce qu'attendre, est-ce que c'est comme ça aussi chez vous, l'attente?
Oui, il y a pour beaucoup de choses. Alors, toutes les personnes qui n'ont pas changé leur mode de consommation se retrouvent à attendre des heures. Parce qu'effectivement, comme il faut avoir 1m50 et 2 ou 3 personnes par magasin...
Ça fait des longues filets, hein. Ouais, ça fait de longues
filets. Et du coup, ça fait de longues files avec des risques de contamination si besoin il y est, donc c'est contre-productif.
Ah oui, en fait.
Donc moi, j'en dis, mais allez dans les petits magasins.
Ah oui, mais c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais, les épiceries de quartier. Puis les gens vont, au moins ça les aide à vivre. Hein. Ils avaient plus beaucoup de chiffre d'affaires avec toutes ces grandes surfaces. Alors maintenant, ben, si on peut les encourager, ben, pourquoi pas. Marie-Pierre, on fait une pause musicale, on écoute Mistral gagnant avec Renaud, quelques minutes, et on repart avec notre sujet du jour, l'inégalité sociale chez les enfants. Tout de suite après cette pause musicale.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts. Et donner à bouffer à des pigeons idiots. Leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui désarde les murs. Qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot. Les bons becs fabuleux. Piquer chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants.
Vous êtes toujours sur Troc Radio, vous écoutez Édition d'un océan à l'autre. Je suis Francine Broca, accompagnée de Marie-Pierre Médouga. Marie-Pierre.
Oui.
Oui, alors nous y allons avec... c'est vrai, on parlait du déconfinement, que ce retour en classe, et je vous avais dit que j'avais trouvé ça épouvantable quand les ministres disaient « Oui, c'est bien pour bien des raisons. Premièrement, par faire leur éducation, finir leur année scolaire, mais qu'il y avait tellement de gens qui souffraient, qui étaient confinés, qu'il y a des enfants qui avaient de la maltraitance et qui ne mangeaient pas à leur faim. Est-ce que c'est pas épouvantable de devoir retourner nos enfants à l'école pour qu'ils puissent manger et ne pas souffrir de maltraitance ? Vous trouvez ça normal ?
Alors non seulement je ne trouve pas ça normal, mais vous me donnez l'occasion de donner des statistiques au moins pour la France,
ouais.
Pour la région parisienne. On a beaucoup parlé du 93, vous le savez, pour le Covid, pour le traitement du Covid. Des départements pauvres en règle générale, 93, 91, la Corse, hein, qui sont des départements les plus pauvres de France. Mais en plus... Là, on sait qu'en France, on a 1 enfant sur 5 qui naît pauvre. Et effectivement, on a vraiment un seuil de pauvreté qui est de 1 015 euros. Ce qui signifie qu'en France, on a un peu plus de 3 millions d'enfants qui sont pauvres. Effectivement, ce Covid-19, ou cette Covid-19, vous avez raison la dernière fois, elle a amené à confirmer, puisqu'on le savait déjà, que d'une part, l'école sert de bouclier social. L'école nourrit, on sait qu'ils ont au moins un repas par jour.
Ouais. Parfois deux, parfois deux. Je sais que chez nous, ici, quelquefois même, ils servent le petit-déj le matin et le déjeuner aussi, parce que les enfants n'ont rien à manger et on dit qu'un cerveau vide, ben, ça ne l'apprend pas beaucoup. Hein.
Mais nous, on a la cantine et souvent, les municipalités prennent en charge une partie de la cantine. Hein. En France, vous avez le quotient familial qui fait que vous payez la cantine en fonction de vos revenus.
Ah, et donc, on n'a pas ça ici. Alors, c'est-à-dire que les gens qui sont plus défavorisés peuvent donner un montant moindre pour...
Tout à fait. Ah, ça, d'accord. C'est bien parce que du coup, il y a cette compensation, mais ce qui fait que les parents mettent justement leurs enfants à l'école parce que les enfants vont pouvoir avoir un vrai menu avec entrée, plat, dessert équilibré pour 2, 3, 4 euros maximum.
Ah bah c'est bien.
Et ça, c'est important.
Ouais, mais faut-il l'avoir, les 3, 4 euros ? Il y a des familles qui n'ont pas 3, 4 euros pour donner si vous avez 2, 3 enfants. Et généralement, ce qu'on... C'est malheureux à dire, mais dans les milieux défavorisés, ce sont toujours des familles qui ont plus d'enfants que les autres, à quelque part.
Qui ont beaucoup plus d'enfants, tout à fait.
Ouais.
Alors, c'est toute la difficulté. Et c'est vrai que dans les écoles primaires, comme encore dans certaines autres écoles, on a le principe, on fait un pot commun. Et donc, les foyers des écoles achètent des gâteaux pour les donner aux enfants. Et les enfants avaient toujours une collation le matin, une collation l'après-midi, en plus de la cantine, pour pouvoir justement avoir un petit déjeuner, quelque chose qui leur permettait de bien manger chez vous, en plus avec les froids là, qu'il fait
à l'hiver.
Qu'il fait l'hiver, c'est absolument impératif. Et ce que ça met en lumière, c'est qu'en fait, dans ce grand pays, 7e puissance mondiale, la France, il y a plus de 30 000 enfants qui vivent à la rue avec leur famille. Il y a 19% des moins de 18 ans qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Ouais.
Il y a 26% des moins de 30 ans qui sont pauvres. Vous parliez des difficultés des familles. On sait que ces familles sont souvent des familles monoparentales. Donc 33% des enfants pauvres vivent dans une famille monoparentale. Et 20% des Français, c'est ce dont je vous parlais, ont, même avec les prix réduits, du mal à payer la cantine de leurs enfants.
Ben oui, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et là, tout est le problème. Mais moi, ce qui m'a rendue furieuse comme ça, c'est que quand, comme société, et c'était une des raisons pourquoi on devait les renvoyer à l'école, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que là, et on ne voyait pas ça avant. Parce que là, on est en confinement, tout d'un coup, il y a une lumière quelque part. Je pense qu'il y a des lumières qui se sont allumées pas mal, beaucoup, là, avec ce confinement.
Tout à fait.
Qu'on a vu beaucoup de choses. Ici, on disait aussi que, bon, il y a des enfants qui vivent dans des foyers. Hein. Alors, on dit que, mais ceux qui souffrent d'handicap, ils sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans des foyers défavorisés, encore une fois de plus. On dit que le problème majeur, ils sont des victimes physiques, des enfants chez nous, de 4 à 16% sont victimes de violences physiques.
Ils sont handicapés,
Et 10% de négligence psychologique. Et sans parler de ceux qui subissent des sévices sexuels, on dit 10% chez les filles et 1 à 5% chez les garçons. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable.
C'est épouvantable. Je crois que c'est sans doute l'injustice qui me saisit le plus quand de l'autre côté, on entend parler tous ces tycoons, comme on dit en anglais, donc tous ces grands maîtres d'industrie, hein, ces grands capitaines d'industrie, ces énormes salaires. Et vous vous dites, mais comment ? Dans notre société, nous n'avons pas encore réussi à éradiquer ni la pauvreté, ni la faim. Non. Ce sont quand même des objectifs de développement durable, le premier et le second, des objectifs de développement durable. Et on n'a toujours pas, on a avancé l'extrême pauvreté, du moins jusqu'à l'apparition du Covid de cette année, l'extrême pauvreté a reculé. Mais la pauvreté, je dirais, banale, coutumière, elle est là, elle est présente, et elle est présente dans un pays où notre société s'est tout à fait paupérisée.
Enfin, j'ai rien contre vous parliez.
On a un bouclier social très fort.
Ouais. Vous parliez des gens qui ont des gros salaires, c'est vrai. Quelquefois, ça peut être honteux, un peu gênant. Ces gens-là, ils n'ont pas tordu le bras à personne pour qu'on les paye comme ça. Mais là, on devrait, comme société, voir à nos pauvres. Ça n'a pas de sens. On voit ces gens qui dorment dans la rue, là, on parle des enfants, mais ça, c'est qu'un enfant qui ne va pas à l'école, qui a des problèmes, qui vit dans un milieu défavorisé, va probablement être décrocheur beaucoup plus tôt. Et si on n'a pas d'études aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont retourner sur le milieu du travail avant les autres, ils vont lâcher l'école, ils vont avoir des salaires presque de minables, et là, ils vont devenir des adultes défavorisés et dans la pauvreté. Et la roue va tourner.
Et je lisais qu'il faut 6 générations. C'est le temps qu'il faut à l'ascenseur social pour sortir un enfant de la pauvreté. 6 générations, 6 fois 2 ans, donc 6 fois 2. Donc ça fait 120 ans, vous imaginez ? Quand les gens disent, mais pourquoi ces pauvres sont là ? Mais ces pauvres sont là parce que leurs parents étaient pauvres, leurs grands-parents étaient pauvres.
Bien sûr, je veux dire, on n'est pas tous avec une cuillère d'argent en bouche. Et puis bon, souvent, je dis toujours, moi, bon, je me fais souvent lancer de tomates où ils ne sont pas d'accord avec moi, mais je m'en fous, c'est mon opinion et je la partage. Un enfant qui est né dans un milieu qui a beaucoup d'argent, et un enfant qui est dans un milieu défavorisé, ils n'ont pas le même départ dans la vie. Je m'en fous de ce qu'on dirait, ils n'ont pas. Peut-être que si l'enfant...
Non, bien sûr que non.
Et puis, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'opportunités, l'enfant peut se former, s'il a une chance, il va finir ses études, puis il va bûcher, puis s'il est très travaillant, il va pouvoir s'en défaire et venir à faire quelque chose dans la vie. Mais c'est si peu. Tandis que c'est vrai, celui qui a beaucoup d'argent, mais il a le choix, lui. S'il veut rien faire de sa vie, il n'en fera pas, mais il a le choix quand même de pouvoir avancer. Et c'est un gros avantage. C'est, la nature est faite comme
on
ça.
On sait qu'il sera en moins bonne santé.
Déjà au départ.
Il sera au chômage plus souvent. Il vivra en moins bonne santé, dans des appartements de moins bonne qualité.
Bien sûr, tout s'ensuit. Tout va.
Alors, il pourra moins bien prendre soin de ses enfants. On sait qu'il y aura plus de morbidité à cause de l'obésité, à cause de l'hypertension. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 93 ? Pourquoi c'est une véritable hécatombe en matière de Covid ? Parce que ce sont les mêmes personnes en situation...
Vous appelez le 93, Marie-Pierre, c'est Seine-Saint-Denis, est-ce que c'est ça ?
Tout à fait, pardon, oui, c'est la Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Et pourquoi c'est un département qui est un des plus touchés en région parisienne avec l'Oise, qui est mitoyenne, c'est effectivement... Et une toute petite partie du Val d'Oise, petite partie.
Ouais.
Mais c'est effectivement parce que c'est un des départements les plus pauvres de France. Les personnes qui habitent là-bas sont des personnes qui sont les plus sollicitées. Elles font partie des éboueurs, les gens qui vont nettoyer les
bureaux. Bien sûr, bien sûr. Ils ont les métiers qui paient le moins, non ? Ils sont moins bien rémunérés.
Moins bien rémunérés, ils ont été, eux, il n'y a pas de télétravail pour ce type de métier, les auxiliaires de vie, on en a parlé. Ils ont donc été obligés de prendre des transports en commun, souvent peu de voitures. Donc tout s'enchaîne. Obligés de prendre les transports en commun, des familles la plupart du temps nombreuses, même si l'éducation fait qu'une fois qu'on arrive régulièrement en France, le taux de natalité des populations immigrées baisse naturellement quand ils arrivent.
Ah bah chez nous, c'est le contraire. Les Québécois ne font pas l'enfant.
Oui, j'ai vu ça.
Chez nous, c'est le contraire. On dit toujours, c'est pour ça qu'on dit que si on n'avait pas on en reçoit, puis on veut continuer à en recevoir, parce que ce sont eux qui font des enfants. Mais c'est quand même... on va faire une pause, Marie-Pierre, puis on va revenir avec ça. C'est ces familles-là qui ont le plus d'enfants. Pourquoi ? La question se pose quand même, c'est qu'ils ont moins de sous, et puis c'est eux qui ont plus d'enfants, et en ayant plus d'enfants, plus de bouches à nourrir, donc ça complique encore davantage la vie. On fait une petite pause et on revient tout de suite après.
Oui.
tu rentres quand? Où donc tu pars? Et puis tu vas où? Dis-moi, c'est quand qu'on va pouvoir trier des cailloux?
Je cours après le temps, jamais ne le rattrape. Je le prends de temps en temps, mais souvent il m'échappe. Alors je cours tout le temps, et tu vois, j'en oublie de m'asseoir un instant, et puis de faire le tri.
Tu rentres quand? Où donc tu pars? Et puis tu vas où? Dis-moi, c'est quand qu'on va pouvoir trier les cailloux?
C'est des trucs pour les grands, d'avoir des choses à faire. On se dit que c'est important, alors on court derrière. Quand c'est trop énervant, on fait tout de travers. On croit gagner du temps, et souvent on en perd.
Pas moi quand je le perds, que je sais pas quoi faire. Je m'assois là par terre, je joue avec des pierres.
Vous êtes sur Troc Radio, nous continuons notre conversation, l'inégalité chez les enfants, l'inégalité sociale. Et nous faisons comme cette petite fille nous raconte dans la chanson, vous ne l'entendez pas Marie-Pierre, mais c'était « Trier des cailloux » avec Yves Jamais. Alors c'est une très jolie chanson, je pensais que comme c'était les enfants, de mettre des chansons en primeur pour eux aujourd'hui. Alors nous disions pourquoi les familles qui sont plus défavorisées ont-elles plus d'enfants que les autres?
Alors, il ne faut pas généraliser du tout.
Non, non, généralise pas, mais...
Voilà, il y a beaucoup d'idées reçues. En fait, il faut, dans les familles précarisées, vous n'avez pas que des familles issues de l'immigration, d'une part. Mais si on essaye, vraiment, alors là, on n'est pas dans une émission de sociologie, mais si on essaye de réfléchir, lorsqu'on a des familles issues de l'immigration, il n'y a pas tout ce volant social. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de système de santé, etc. Donc, les familles qui viennent d'Afrique, elles ont gardé les habitudes culturelles de faire beaucoup d'enfants parce que ces enfants sont une richesse. C'est eux qui vont prendre soin.
On entend toujours ça, qu'une famille qui a beaucoup d'enfants, c'est leur richesse, parce que c'est eux qui vont prendre soin.
C'est leur richesse, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Donc ça, c'est une première chose.
Mais ça, on parle des personnes étrangères, des immigrants.
On parle des personnes qui viennent avec une immigration récente.
D'accord.
On s'aperçoit que lorsqu'on a une immigration qui est moins récente, même si elle provient encore des pays d'Afrique subsaharienne, le taux se régule. Il va se réguler un peu moins quand on a des regroupements familiaux, parce que vous savez que dans certains pays, la polygamie, on n'accepte pas la polygamie, mais les effets de la polygamie sont admis. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui vont se regrouper. Et donc, vous allez donc avoir des familles avec un petit peu plus d'enfants parce qu'il y a plusieurs épouses. D'accord ?
Oui, d'accord.
Ça, c'est une chose, mais c'est marginal. Là, vraiment, il y a certains partis d'extrême droite qui en profitent pour dire qu'on mange le pain des Français, mais voilà. Mais généralement, ensuite, lorsque les personnes issues de l'immigration, de la deuxième, troisième génération, et sont en France, le taux de natalité se régule. On fait, grosso modo, un tout petit peu plus d'enfants, mais en France, on a un taux qui était de 2, hein, un petit peu plus de 2.
Ah oui.
Qui est en train de baisser aujourd'hui, un taux de natalité. Mais grosso modo, le taux se régule et on ne fait pas plus d'enfants.
Et pour quelle raison on ne fait pas plus d'enfants? Parce que la vie est trop dispendieuse, pourquoi?
Parce que la vie est plus dispendieuse et parce qu'il faut les nourrir. Donc, cette espèce de mentalité qui dit que...
Oui, mais chez vous, Marie-Pierre, si je comprends, chez moi ici, peut-être pas, mais chez vous en France, vous avez beaucoup d'avantages sociaux.
Oui.
Et ça n'aide pas à avoir... Les gens n'en profitent pas pour faire plus d'enfants.
Ça, c'est vraiment des mentalités qui sont... Les propos qui disent que les gens font des enfants pour les sécurités sociales...
Non, pas pour la sécurité sociale, mais je veux dire, vous avez les enfants, les études sont payées, vous avez beaucoup d'avantages sociaux sur ce côté-là qui dit, dans le fond, je pourrais avoir des enfants.
Ouais. Voilà. En France, on a ce qu'on appelle une politique nataliste. C'est le fruit de vraiment de réflexion et de conduite avec l'ensemble des syndicats pour maintenir les caisses d'allocations familiales. Mmh. Et c'est une politique qui a permis qu'on ait beaucoup d'enfants en France et qu'on ait, on est un des pays qui a... où les femmes font le plus d'enfants. On est un des pays où les femmes travaillent à plus de 80%, mais où il y a quand même un fort taux de natalité qui ne commence à chuter que maintenant. Hein, enfin, pas chuter, à descendre un peu, que maintenant. Et effectivement, oui, on a nous, un matelas social qui est très important.
C'est vrai. Moi, je dis toujours, quelquefois, quand j'entends les gens qui se plaignent, mais je me dis, vous avez des avantages sociaux qu'on n'a pas ici. Bah, la façon dont je le remarque, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui viennent s'établir ici. Et après un certain temps, bon, c'est vrai qu'il fait froid, on n'a pas les mêmes températures, mais on n'a pas les mêmes avantages sociaux. Malgré que maintenant, le gouvernement du Canada en fait beaucoup, là. Les allocations familiales ont beaucoup augmenté pour les enfants. Et voilà, ça aide vraiment les familles. Mais reste que ce sont toujours, et ce n'est pas parce qu'on regarde ça, mais ce sont des enfants issus de milieux défavorisés qui se remarient et qui font encore beaucoup plus d'enfants que les autres.
Alors, autre explication qui est importante, hein, justement, c'est que vous le disiez tout à l'heure, même si en France on a une politique avec un accès au planning familial qui commence à devenir un peu plus compliqué et que l'on traite beaucoup et que les jeunes femmes peuvent aller voir tout de suite prendre la pilule à partir de 15 ans et 3 mois sans demander l'autorisation de leurs parents, et qu'il y a vraiment une attention toute particulière qui est portée à l'adolescence au cours de sexualité pour justement apprendre les gestes qui protègent et qui évitent une grossesse non désirée. On a aussi une politique assez qui était assez libérale en matière d'avortement, hein, qui permettait. Ouais. Donc, il n'en reste pas moins que il faut aller à l'école jusqu'en troisième. Hein.
C'est une obligation, aussi... c'est obligatoire. Les enfants doivent aller à l'école. Ouais.
Mais il faut aussi avoir une culture qui permettent de penser qu'effectivement, avoir des enfants, c'est
il faut pouvoir les amener, il faut pouvoir les amener à leur éducation, les amener...
Tout à fait. Et la difficulté est là. Si vous n'allez pas, si vous quittez l'école tôt, vous allez reproduire peut-être ce que vos parents ont fait. Ouais. Vous n'avez pas le temps d'avoir... Vous restez dans le milieu parental ou pas loin. Vous n'avez pas le temps de ce brassage culturel et social.
C'est comme un ghetto de ces personnes-là. C'est comme un cercle vicieux où ces gens-là sont défavorisés. Et ils demeurent, comme vous dites, ça prend, comment vous avez dit, 6 générations avant de s'en sortir. Et on voit leur façon de vivre, leur façon de faire. Donc, ils savent pas. Ils se font souvent, ils vont aller acheter des affaires qui vont payer beaucoup plus cher que des gens qui ont beaucoup d'argent parce que ils sont à la dernière minute d'acheter. Ils ne savent pas comment gérer leur budget. Beaucoup, on voit ça aussi. Alors, ça amène d'autres problèmes. Mais comment s'en sortir ? Ouais.
L'un des problèmes, si on ne le prend pas comme ça, mais si on retourne le problème, on est dans une société de consommation très importante. Et dans cette société, quand vous parliez de difficultés de budget,
oui.
La COVID a permis de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que on est dans une société hypercapitaliste qui pousse à la consommation. Mmh. Et donc, effectivement, comme les salaires n'augmentent pas, il y a de plus en plus de difficultés. On est dans un pays où il y a un endettement, on a même une loi sur le surendettement, parce que pour répondre aux standards et à la pression sociale très forte d'avoir une grosse télé, d'avoir un mode de vie.
D'avoir juste un téléphone, qu'on voit que tous les enfants, presque tous...
Le coût des téléphones,
bah oui.
Dans le budget. Ouais. Ce n'est pas le même coût quand vous pouvez acheter un téléphone à 350, 450, 950 euros, mais que vous avez un salaire de 3000 euros, alors quand vous avez un salaire classique au SMIG, qui est net entre 1000 et 1200 euros maximum avec les allocations. Donc, Mais cette pression-là est forte.
Est-ce qu'elle est forte? Est-ce que vous diriez, Marie-Pierre, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que ça se voit chez les enfants? Est-ce que les enfants le sentent? Moi, je dis toujours que oui, la pauvreté n'est pas aveugle. Un enfant qui va à l'école et qui voit qu'il y a des baskets plein de trous ou sales et que l'autre a des baskets Nike ou Adidas qui ne peuvent pas s'en procurer, il y a une souffrance chez l'enfant qui voit ça, non?
Il y a une souffrance, c'est l'enfant. On l'a dit, les enfants, s'il y a une chose que les enfants n'aiment pas, c'est être différent. Ils veulent être tous pareils, les enfants.
Ben oui.
Et donc, effectivement, vous voyez que les familles vont parfois se saigner aux quatre veines pour pouvoir acheter qui l'iPhone, qui les baskets à 90 euros, 100 euros, une paire de chaussures. C'est énorme.
Oui, bien
100
sûr.
Euros, une paire de chaussures. Oui. Pour ceux qui ont connu le franc, c'est particulièrement fort. Et donc, il y a toutes ces pressions-là qui font que, d'une part, il y a une espèce de déséquilibre pour envisager son budget dans une société qui pousse à l'hyperconsommation et qui, de l'autre côté, n'augmente pas les salaires. C'est vraiment des injonctions paradoxales, ça rend fou, et en tout cas, ça endette, et ça surendette. Mmh. Donc, on se retrouve avec, effectivement, on a une redistribution dans nos deux pays qui est tout à fait inadéquate. Et donc, la redistribution ne joue pas. C'est pas tellement. La richesse circule dans nos deux pays.
Oh, mais elle n'est pas bien redistribution.
Redistribution. Le ruissellement, vous voyez, ça ne fonctionne pas, le ruissellement. Ça ne ruisselle pas vers le bas. Hein, ça a tendance à faire, contrairement à ce que la gravité fait, ça remonte vers le haut, ça ne redescend pas.
Donc ça fait ça l'argent, ça ne va pas comme vous dites.
Il y a d'autres sociologues l'ont dit, il y a des reproductions sociales, ça c'est Bourdieu qui le disait, il y a des reproductions sociales qui font qu'il est très difficile de sortir de son milieu. Ensuite, on est un pays, alors vous beaucoup moins au Québec, nous beaucoup plus. On est un pays avec des règles très importantes. Il est difficile. Vous regardez pour
qu'est-ce
les
que vous
études.
Voulez dire que différent de chez vous à chez nous? Quelle sorte de règles vous parlez?
Par exemple, pour retrouver des enfants d'ouvriers dans les universités, par exemple. Pour avoir des enfants d'ouvriers dans d'autres systèmes. Même avec les systèmes d'alternance, il n'y a pas d'égalité.
Ouais. Mais chez vous, vous dites que vous avez plus d'enfants d'ouvriers qui vont à l'université que chez nous?
Ah non, je trouve qu'il y a une notion. Chez vous, vous avez quand même pris quelques éléments des anglo-saxons. On peut saisir sa chance.
Oui, en France, c'est ce que je disais. On a chacune valise, là, le riche et le pauvre. On n'a pas les mêmes outils. Mais si on veut et on persiste et si on a cette résilience, on peut y arriver. Mais après combien d'efforts? Après combien d'efforts, contrairement à l'autre personne qui a une grande avance sur nous?
Tout à fait. Mais vous, c'est quand même plus admis. Parce que, je l'ai remarqué, il y a des entretiens, on demande les études et les diplômes, mais l'expérience compte beaucoup. La manière dont
oui, mais le diplôme, oui, mais Marie-Pierre, le diplôme compte beaucoup ici. Mais on finit par comprendre peut-être à un certain moment donné qu'un papier, tu peux l'avoir et ça ne veut pas dire que tu as les compétences parce que tu as le papier non plus. Hein. Ça joue des deux côtés, mais c'est ça. Allez-y, je vous écoute.
Voilà ce que je voulais dire pour cette partie-là.
D'accord.
En tout cas, pour la partie de la reproduction des inégalités, et c'est vrai que le Covid a mis l'accent sur le fait que si vous voulez faire l'école à la maison, il faut avoir un ordinateur.
Voilà.
Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous êtes mise à l'écart.
Ouais.
Vous êtes exclue. Il y a une exclusion numérique qui se fait.
Par contre, à l'école, on leur donne tous des petits ordinateurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand on les a confinés, on n'a pas dit aux enfants, mais vous pouvez l'apporter à la maison. Hein? Ça aurait pu être fait, ça aussi, de cette façon-là. Mais comme je vous dis, il y a quelquefois, les gouvernements prennent des décisions qui ne réfléchissent pas assez avant de porter un geste. Mais ils auraient pu dire aux enfants, vous les apportez. Vous n'avez pas ça chez vous, les enfants n'ont pas tous accès.
Non, ils n'ont pas tous les ordinateurs.
Ben, alors, pas tous non plus chez nous, mais ouais.
L'école 4.0, ça dépend des régions.
Mm-hmm.
Parce que ce sont les régions qui ont cette compétence.
Ouais.
Et, Et dans les écoles primaires ou les écoles comme voilà, c'est pas tous les enfants qui avaient un ordinateur.
Non, et dans les écoles défavorisées, ben ils en ont moins que dans les autres écoles. Naturellement, on revient encore au même truc. Les écoles privées, les écoles publiques, ils n'ont pas tous les mêmes outils non plus pour travailler. Mais c'est d'une tristesse. Et là, la maltraitance. Il faut les envoyer à l'école pour pas qu'ils soient maltraités à la maison. Et on voit encore ça dans des milieux défavorisés, une fois de
pas
plus.
Pas uniquement. Ça, il faut quand même.
Oui, il faut quand même le dire, Marie-Pierre. Mais le pourcentage est quand même plus élevé dans les milieux défavorisés.
De la maltraitance, moi, j'ai pas les chiffres.
Hein. Ah non.
Ça, par contre.
Moi, je vous dirais, j'ai pas les chiffres devant moi, mais pour avoir vu beaucoup de, avec ce qu'on appelle ici la protection de la jeunesse, là.
La difficulté que l'on a en France, c'est que c'est un biais cognitif. En fait, on va avoir plus de placements parce que ce sont des familles à qui on va enlever.
Des familles d'accueil, oui.
Non, mais tout simplement, quand un enfant ne va pas à l'école, il y a un signalement. Donc, si cet enfant va moins à l'école, etc., il y a un signalement, donc on se rend plus compte de la maltraitance. D'accord.
D'accord.
Mais si vous êtes dans une école privée...
Mais
si
la maltraitance, avez... ça ne veut pas dire parce qu'il ne va pas à l'école qu'il est maltraité.
Ah si, d'abord, si. En France, c'est obligatoire d'envoyer les enfants à l'école. Donc, si vous n'envoyez pas votre enfant à l'école...
C'est considéré comme une maltraitance.
Il va y avoir des enquêtes. À vous de prouver que vous instruisez, votre enfant. Mais si d'accord. vous ne le faites pas directement, c'est une... Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, la maltraitance, ça c'est un sujet quand même important, elle est indépendante du niveau. Il y a différentes formes de maltraitance, mais elle est indépendante du niveau
de vie. Alors, Marie-Pierre, on fait une autre courte pause, on va parler de ça. On va faire notre emphase de notre dernier segment sur la maltraitance. Comme vous dites, il n'y a pas que dans les milieux défavorisés, ça se voit... Dans tous les milieux, d'après ce que vous me dites, c'est ça?
Oui.
D'accord. Une courte pause et on revient tout de suite pour la maltraitance chez les enfants.
Au parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les enfants sages ont des cerceaux. Au fil de l'eau, dissimulés dans les roseaux, on entend piailler les oiseaux. Parc Monceau, petit morceau de mon histoire, le vieux monsieur des balançoires, les cygnes noirs. La ville était à l'autre bout du monde, entre le lac et la rotonde. Au parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les cours d'histoire avaient bon dos. Près du métro, elle m'attendait sans dire un mot. J'ai pris sa main comme un cadeau. Le parc Monceau, premier baiser de mon histoire, sur un des bancs d'une allée noire, un peu d'espoir.
Vous êtes sur Troc Radio, vous écoutez d'un océan à l'autre et nous poursuivons notre discussion sur la maltraitance. C'est vrai que les enfants, c'est un cadeau de la vie finalement. Et pourquoi il y en a parmi eux qui sont si maltraités?
Ben justement, là je relisais, et c'est pour ça que j'avais nuancé vos propos, sur la pauvreté et la maltraitance. Et il y a un article qui date de 2016 qui explique que justement c'est un sujet hautement sensible. Effectivement, il y a une large partie des enfants qui sont placés donc dans l'aide sociale à l'enfance qui sont issus de familles en grande précarité. Et où les difficultés familiales sont souvent liées aux conditions de vie difficiles. Pour autant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en fait ces enfants de milieux défavorisés ne sont-ils pas surreprésentés, ce fameux biais cognitif dont je vous parle?
Oui.
Et alors, effectivement, sur le plan scientifique, le sujet n'est absolument pas tranché. En fait, on reconnaît par exemple que on retrouve, toutes les études épidémiologiques, on retrouve une maltraitance physique et sexuelle dans tous les milieux. Et ça, c'est un discours récurrent. Et Mais on peut se poser des questions. Et donc, on s'aperçoit qu'on a certaines violences physiques et négligences extrêmement graves, où on a une petite prévalence, une surreprésentation dans les familles précaires. Mais c'est une petite prévalence. Vous voyez, c'est pas,
non,
c'est
ici, pas aussi tranché. Ouais. Bah ici, j'en sais pas. Voilà. Moi, je pense que j'ai lu, ça s'appelle la protection de la jeunesse. On a eu beaucoup de problèmes parce que ces gens-là...
Oui, bon, la DPJ.
Oui, la DPJ. Alors, ils étaient surveillés. On disait quand les enfants téléphonaient, bon, ils les retiraient des familles. Mais il y a eu des enfants où la DPJ n'a pas... probablement manque encore une fois de personnel ou manque d'écoute, ne sont pas allés. Il y a des enfants qui sont décédés parce qu'ils étaient maltraités. Mais là, on parle de très jeunes enfants. Bon, quand on a 12, 13, 14 ans, on sort, on peut quand même s'exprimer et aller à l'extérieur et parler. Mais quand ce sont des enfants, je vous parle en bas de 3 ans, c'est... Je ne sais pas comment on en arrive là, encore une fois. Est-ce que c'est la dépression, les récessions, le manque d'argent, le manque d'éducation? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Et c'était là mon questionnement du début. Comment en sommes-nous arrivés là comme société?
Là, société... Alors, moi, j'ai une réponse, mais qui est plutôt une réponse philosophique. On le sait... Quand une société est maltraitante, elle conduit à faire subir des maltraitances. Une société qui est maltraitante économique, elle fait subir une pression énorme sur ses agents économiques. Et les agents économiques étant vous, moi, ceux qui travaillent, vous voyez. Et donc, effectivement, c'est une pression extrêmement grande. Donc, c'est multifactoriel. On ne peut pas dire comme ça directement, c'est à cause de la précarité que les gens battent leurs enfants. Il y a le déficit d'éducation, hein, parce que effectivement.
C'est tout un bagage, derrière
tout
soi.
À fait.
C'est ça.
Mais il y a aussi les conditions socio-économiques qui font que si vous n'arrivez pas à trouver du travail, si vous êtes maltraité vous-même par votre chef de service, ou vous allez finir par reproduire cette maltraitance.
Bien sûr, vous êtes maltraité à votre travail, vous rentrez chez vous, tout vous tape sur le système et vous reproduisez ce que vous avez subi pendant la journée, un jour ou l'autre.
Voilà. Mais on ne peut pas dire, effectivement, le lien entre précarité et maltraitance, ce lien-là, même si c'est un sujet extrêmement sensible, n'est pas du tout... n'est pas du tout, comment dire, on a des difficultés à effectivement dire c'est dans les familles précaires que l'on trouve le plus de maltraitance. On ne peut pas le dire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dans les familles précaires ou parmi les enfants maltraités, vous avez un grand nombre d'enfants qui sont issus de familles. Voilà, on peut dire cette phrase-là qui n'est pas faute, mais on ne peut pas faire un lien entre c'est la précarité qui engendre la maltraitance tout le temps, ou effectivement il y a plus d'enfants maltraités, parce que les autres, en fait, on les voit moins, il y a moins de surveillance.
Mais on peut faire un lien, mais on peut faire un lien quand même avec la précarité des gens pour les enfants qui ne mangent pas. La faim, par contre.
Ça, complètement. Mais je voulais vraiment faire attention ici aux propos que je tiens.
Mais
faire le lien, voilà. Ouais. Mais évidemment qu'il y a de la maltraitance. Mais ne pas donner, par exemple, un repas à un enfant parce qu'on ne peut pas le nourrir, c'est de la négligence?
Non, c'est pas de la maltraitance. C'est pas de la maltraitance.
Ah,
Non. Non, si on n'a pas l'argent pour le nourrir, les mamans s'enlèvent le pain de la bouche pour leur donner aux enfants. On ne peut pas dire ça. Non, vraiment pas.
Ne pas envoyer son enfant à l'école parce que vous n'avez pas le bus ou pas les éléments.
Mais parce que parfois, l'enfant, vous avez pas, ils n'ont même pas de chaussures pour aller.
Voilà.
Ils sont habillés avec eux. Ouais. Non.
Voilà.
Je ne parle pas de cette il y a plusieurs sortes de maltraitance, vous avez raison.
Exactement, c'est ce que je voulais vraiment. Il fallait qu'on soit attentif parce que, en revanche, ces familles-là sont plus facilement signalées.
Bien sûr.
Et comme elles sont signalées par soit les directeurs d'école, soit les éléments, parce qu'elles n'ont pas pu faire le vaccin, alors encore que des vaccins sont gratuits chez nous, mais elles n'ont pas pu faire un minimum de choses, donc elles sont plus facilement signalées. Et il y a...
Injustement, parfois. Ouais.
Donc ça, c'est important de faire le lien. Mais heureusement aussi que on peut justement avoir une attention plus particulière sur des enfants qui pourraient être en grand danger.
Ouais. Mais c'est surtout cela que je voulais dire. Moi, quand je vous parle que la DPJ, puis ils ont trouvé des enfants qui étaient, mais ces enfants-là avaient été battus ou trop secoués, ou par coups, partout. Ça, je vous parle pas des gens qui ne les nourrissaient pas, qui les envoyaient pas à l'école, là. C'était des enfants battus. Et, ben, c'est la plus grande maltraitance, je pense. J'ai un enfant qui a moins de 3 ans ou 4 ans, qui ne peuvent pas, ce sont des petits êtres sans défense. Mais quand on parle de tous ces milieux de précarité, c'est que c'est comme, un peu comme l'immigration. Les gens se rassemblent tous dans des ghettos. Je sais pas, bon, chez vous aussi, où j'ai vu ça, Saint-Denis, bon, il y a beaucoup d'immigration qui sont là, beaucoup d'immigrants. Chez nous, ils vont tous rester dans des quartiers, ça rassemble tous. Et la pauvre.
Il n'y a pas que des immigrants. Il n'y a pas que des immigrants. Il y a
non,
il y a
des
gens.
Oui, oui.
Parce que moi, je suis noire et je ne suis pas immigrante. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il y a de la diversité, mais il y a beaucoup de gens qui sont en Saint-Denis.
Non, mais là, je ne parlais pas de couleur ou quoi que ce soit. Français. Oui, oui. Non, mais je parlais.
Non, mais ce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, mais qui ne sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être issu de l'immigration, être française depuis 2-3 générations, mais c'est vrai que c'est dans ces départements-là
qu'on voit
où,
plus
naturellement,
de.
Vous voyez le plus de diversité.
Diversité de précarité, parce qu'ici aussi même je dis les pure laine, comme on les appelle les Québécois, on a des quartiers. Et les quartiers les plus défavorisés, ben c'est ces quartiers-là, les gens se rassemblent là. Il y a des quartiers pour les plus riches, comme si on parle chez vous du 16e. Mm-hmm. Ou,
bon,
ben
oui, c'est, du 16e, bon. Du
7e. Ouais, ben voilà, c'est pas le 19e ou le 93, comme vous l'appelez là, Saint-Denis. Alors, ils se rassemblent là, et j'ai l'impression que les gens ne se mélangent pas assez. On reste tous pris là, et on en sort. C'est plus difficile de s'en sortir. Peut-être pas. Bien sûr que si tu habites un quartier où c'est moins dispendieux, tu peux pas aller rester au 16e parce que tu n'auras jamais l'argent pour te payer, même de porte-monnaie sur la rue parce que les loyers sont tellement chers. Mais tout ça redevient. Moi, je me souviens, j'ai fait des émissions sur les enfants qui étaient comme ça, battus et en précarité. Et j'avais été leur apporter, donner comme bénévole dans les écoles. Et j'étais frappée après, je parlais avec les enfants, et je suis allée dans leur milieu, et de voir que certains parents avaient la voiture de l'année devant la porte, et que les enfants n'avaient rien à manger à l'école. Ça aussi, ça existe. Et ça, pour moi, c'est quelqu'un, pour moi, c'est de la maltraitance, hein, de se procurer le luxe et de ne pas donner à ses enfants le nécessaire qu'il a besoin. Enfin, peut-être j'ai tort de penser comme ça, mais.
Non, c'est une forme de maltraitance.
C'est une forme de maltraitance aussi. Mais c'est pour ça. Et il y a des gens qui sont. L'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous reste 4 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, nous?
Ah, déjà, être auprès des associations qui luttent. Qui luttent, il y en a beaucoup, il y a Oxfam qui lutte contre les inégalités, il y a la Fondation Abbé Pierre, il y a toutes les associations qui sont dans le collectif Alerte.
Mais faut-il encore que ces gens-là y aillent, faut-il encore que ces gens-là téléphonent, et c'est tout ça, parce qu'il y a des mamans qui ne savent pas, étant dans des milieux, ne savent pas budgéter, ils ont des problèmes et d'éducation, et c'est vrai, il y a des numéros pour les aider.
Nous, on a des assistants sociaux. En France, vous avez quand même. Alors, elles manquent énormément de moyens. Elles sont épuisées. Parce que justement.
C'est pas un métier facile, non.
Ce qui est plus un travailleur social, c'est de ne pas pouvoir répondre à la demande. On a une paupérisation croissante de notre population. Mm-hmm. Vraiment, hein. On a ce qu'on appelle. Ce qui a augmenté, c'est pas la grande précarité, mais c'est les travailleurs pauvres. Des gens qui gagnent entre 1 000 et 1 500 euros. Donc qui ont un salaire, qui travaillent et qui ne peuvent pas avoir un logement, qui ne peuvent pas avoir un niveau de vie suffisant.
Ah bah, on a ça, le même problème ici, on a le même problème, il n'y a pas de logement pour ces personnes-là. Voilà.
Et c'est ça qui est le plus difficile. Donc pour les aider, c'est une question politique, la pauvreté, l'éradication. La pauvreté, ce n'est pas simplement au bon vouloir des associations. C'est vraiment une question politique et d'actes politiques.
Alors, il faudrait aider les parents pour pas que les enfants soient en souffrance. Commencer par là, chez les adultes.
Ah, il faut agir sur la redistribution de la richesse. Déjà pour commencer, je pense que c'est déjà le premier point, agir sur la redistribution.
Leur donner des salaires adéquats. Au départ.
Des salaires décents et adéquats.
Mm-hmm.
Alors, on a fait, on a, donc nous en France, Les gens diront, mais on fait déjà beaucoup, il y a des primes de précarité, il y a des primes d'activité qui font que si vous ne gagnez pas le SMIC, vous avez quand même un complément. C'est vrai.
C'est vrai, chez nous aussi, on a ça.
C'est suffisamment pour survivre, pas pour vivre.
C'est ça.
Oui,
c'est ça.
Il y a une grande différence entre la subsistance et vivre.
Ah ouais. Moi, j'écoutais hier aux nouvelles, on nous annonçait que malheureusement, on va avoir une grosse augmentation dans la nourriture, comme si c'est pas assez dispendieux maintenant, et les gens n'ont pas d'argent. Je sais pas comment ils vont faire pour nourrir leur marima et faire tout ça.
Il y a déjà des files dans la Croix-Rouge, devant
chez nous aussi.
Les banques alimentaires, c'est terrible là,
ouais.
Déjà.
Chez nous, on demande souvent, moi je dis toujours, on mange pas qu'à Noël, là, parce qu'il y a la guignolée dans le temps des fêtes, on demande beaucoup. Et là, depuis cette semaine, ils les annoncent passent à la télé, s'il vous plaît, si vous pouvez apporter votre aide pour les banques alimentaires. Il y en a de plus en plus. Et on n'est pas, je n'ai rien contre le tiers-monde, mais on n'est pas au tiers-monde, comme vous dites, on est des pays quand même assez riches, n'est-ce pas, pour pouvoir nourrir notre population. C'est incroyable.
Normalement, oui.
Ouais.
Normalement, oui.
Normalement, oui, comme vous dites. Mais...
Moi, j'avais ce chiffre-là, et ça m'avait effrayé, où il y avait 62% des enfants français craignent de devenir pauvres un jour. Les enfants qu'on a interrogés, et ils ont entre 8 et 14 ans.
Mmh, parce qu'ils voient les gens dans la rue, ils voient les gens ce qui se passe autour d'eux. Ce n'est pas aveugle, les enfants. Je vous ai dit, la pauvreté, ça se voit. Ça se voit.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Ouais,
ouais. Et c'est dire, voilà, vous me demandez, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a une réponse politique. Encore
faut-il qu'elle écoute. Il faut-il encore que les écoute.
Vraiment, c'est un choix politique
un choix.
De ne pas avoir de pauvreté. Or, on est sans doute encore dans une économie qui dit que puisque vous êtes pauvre, vous allez pouvoir accepter des contrats à 1 euro, comme il y a en Angleterre, ou des contrats... Voilà, c'est ça.
Mais c'est ça, ça l'entraîne. Ouais. Ça l'entraîne. C'est une roue qui tourne. On est pauvre, on a des salaires moindres, on n'a pas d'éducation, on lâche l'école, et voilà. Enfin, Marie-Pierre, on en a quand même... C'est en discutant qu'on peut peut-être faire avancer les choses. Espérons, et puis que... Surtout que les enfants n'en souffrent pas trop. On va se quitter là-dessus en pensant qu'on fait pour le mieux et ce qu'on peut. Déjà c'est ça.
Oui, voilà. Et puis surtout, je le répète quand même, on a quand même en France un espèce de matelas social que vous n'avez pas
non.
avec des réseaux quand même d'assistantes sociales.
On a ça, mais on n'a pas aussi un gros matelas que d'avantages sociaux comme vous avez chez vous. Mais enfin, on peut pas tout avoir. Puis on vit chacun dans son pays, il faut faire avec. Mais je veux dire que malgré ce confinement qu'on vit présentement, je salue quand même nos gouvernements parce qu'ils en font beaucoup. Et puis pour eux, la santé passe avant l'économie et la dette sera ce qu'elle sera. Mais on s'en fout. Le monsieur Trudeau dit.
Votre gouvernement, c'est
oui.
ça. Moi, j'étais vraiment.
Ouais.
Ça m'a fait chaud au cœur de l'entendre.
Ouais.
Nous, c'est pas ça. Nous, il a fallu reprendre très vite. Hein. très vite.
Ah oui, mais qui sait, peut-être vous allez être encore reconfinés à l'allure où les gens se promènent dans la rue que je vois chez vous. Qui sait ce qui vous pend au nez. Enfin, on espère que, qu'ils vont être plus sages. Soyez au moins prudents. Prudents pour ne pas que.
Ouais. Croisons les doigts pour
les
que...
pieds, tout ce qu'il faut croiser.
On n'est pas à se reconfiner très vite, tout à fait.
D'accord, Marie-Pierre, mais ce fut toujours un plaisir de vous avoir. Puis on se donne rendez-vous lundi. Je vous souhaite un bon week-end et portez-vous bien, faites bien attention à vous. Portez votre masque si vous allez à l'extérieur et protégez-vous. Voilà.
C'est ça.
Ça là.
Ce point de vue également. Ouais.
Merci à tous les auditeurs de votre fidélité. Alors nous, on se retrouve lundi, même poste, même heure, sur Troc Radio. Je suis Francine Broca et je vous souhaite à tous, prenez bien soin de vous et je vous fais la bise. Au revoir Marie-Pierre.
Au revoir Francine et très bon week-end.
Merci.
Je marche sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants.